Merci Seigneur Jésus parce que tu nous appelles les uns d'une façon, les autres d'une autre. Et aujourd'hui tu appelles vraiment Raphaël à nous partager ton cœur. Et ce que je te prie Seigneur, ce que nous te prions, c'est que cette parole que tu as sur ton cœur, que tu puisses la mettre dans la bouche de Raphaël. Et que cette parole puisse descendre dans nos cœurs, dans nos bouches. Et dans nos mains. Amen.
Merci beaucoup, Jacques. Alors, je me réjouis d'être encore avec vous. On prépare la technique. Voilà. Donc, le thème que j'apporte aujourd'hui, c'est être reconnaissant comme un étranger. Alors, être reconnaissant, pourquoi toucher le thème de la reconnaissance? Ben, c'est parce que c'est moi le premier qui a besoin de ça. Hein? Et je vous dis comment il se fait que j'ai un peu creusé sur ce thème. Alors, vous savez, dans la famille Souricault, nous sommes 6. On est presque tous des adultes, hein. Nos enfants, les 4 enfants grandissent, ils sont à 2 dans une petite chambre. Alors tous les quelques mois, le thème de changer de maison arrive, et moi je suis le plus virulent. Là c'est trop petit, on n'a pas de la place, il faut changer, les enfants souffrent, etc. etc. On fait des discussions assez intéressante. On regarde aussi sur Internet des maisons, mais c'est trop loin, c'est le village. Après, comment on fait pour les transports? Mais chaque fois, le final, c'est que mon épouse, mon cher épouse, dit « Raffaele, tu devrais être plus reconnaissant de ce que tu as. » Voilà pourquoi cette prédication, c'est avant tout pour moi et peut-être aussi pour vous. D'accord? Voilà, être reconnaissant comme un étranger, parce qu'on va prendre un texte qui touche à un étranger. En tout cas, à mon avis, un des grands problèmes de notre société, c'est effectivement le manque de reconnaissance. Parce qu'on a tellement tout avec facilité que finalement tout est devenu un droit. Notre société est une société des droits. On a le droit au divorce, le droit à l'avortement, le droit à changer de sexe, le droit même au suicide. On vit dans une société vraiment très évolue. On n'est pas des sauvages, quand même. Le droit, c'est avant tout. Donc, ce que je pense, c'est qu'avoir des droits, c'est un peu le contraire d'avoir de la reconnaissance. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il y a un lien entre le fait d'avoir des droits et le manque de reconnaissance. Mais pourquoi je dis ça? Mais parce que si tout est un droit, à quoi bon être reconnaissant d'être marié? On a le droit d'être marié et de divorcer. À quoi bon être reconnaissant d'avoir des enfants, d'être ce que nous sommes, homme ou femme? À quoi bon avoir de la reconnaissance d'avoir la vie et d'être une créature de Dieu de grande valeur? On a le droit d'être et de ne pas être. Alors, je ne veux pas apporter une explication de tout cela. Laissons les sociologues essayer de nous expliquer toutes ces absurdités de notre société Et concentrons-nous sur nous-mêmes, nous les membres, nous les visiteurs, nous les croyants, les demi-croyants ou ceux qui sont en recherche. Bref, nous qui sommes ici aujourd'hui à l'escale ou devant l'écran à la maison. Le manque de reconnaissance est un problème à nous tous, et comme j'ai dit, à moi le premier. Aujourd'hui, nous allons suivre une histoire que nous trouvons dans l'évangile de Luc. On y trouve un simple exemple de reconnaissance de la part d'un étranger. Il faut dire que Dieu avait donné des règles assez claires concernant les étrangers qui vivaient en Israël. Par exemple, dans le Lévitique, nous lisons « Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Mais ce n'était pas la même chose dans les peuples à côté, les peuples païens et idolâtres. Vous connaissez peut-être ce qui s'est passé pendant que Lot, le neveu d'Abraham, habitait à Sodome. Là, il reçoit des visites et voilà que les habitants arrivent chez lui. Ils dirent « Pousse-toi !» Et ils ajoutèrent « Celui-ci est venu séjourner chez nous, un étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Nous trouvons cela en Genèse 19, 9. Donc vous voyez une différence de comment on peut traiter les étrangers. On pourrait peut-être se demander, nous, en tant que Suisses, est-ce qu'on se retrouve plus dans le premier verset ou dans le deuxième ? Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Revenons à la reconnaissance avec le texte de Luc 17, les versets 11 à 19. Voilà, c'est Jésus avec ses disciples qui va vers Jérusalem. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir à rendre gloire à Dieu ?» Puis il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Donc, c'est le texte. Nous avons aussi un événement réel. Ce n'est pas une parabole. Jésus va vers Jérusalem. Cela n'est pas dit au hasard. L'auteur, Luc, le médecin, aime mettre en évidence des détails qui jettent une lumière particulière sur l'événement de notre passage biblique. Jésus se rendait à Jérusalem. Jésus vers la trahison. Jésus vers le rejet, vers l'injustice, vers la souffrance. Jésus vers la croix et la mort. Jésus connaissait déjà ces choses en avance. Malgré cela, le texte nous dit, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Malgré cela, Jésus reste sensible, éveillé à ce qui se passe autour de lui. C'est pourquoi il voit et il écoute la détresse de ces 10 lépreux. Ces 10 personnages, rejetés de tous, devaient rester hors du village et vivre de mendicité. Ils ne pouvaient avoir une vie communautaire comme la nôtre. Ils ne pouvaient pas être avec leur famille ou leurs amis. Ils ne pouvaient pas avoir des actes religieux. Ils ne pouvaient pas prier avec les autres à la synagogue. Ils ne pouvaient pas écouter la parole de Dieu. Alors, au premier degré, l'histoire est très simple. Des malades demandent de l'aide à Jésus et ils sont guéris. Le dialogue est très limité et Jésus n'accomplit aucun acte particulier. Il n'y a pas de tempêtes qui sont calmées, il n'y a pas de Jésus qui marche sur l'eau. Il dit juste « Allez vous montrer au prêtre ». Donc nous constatons que Jésus envoie les lépreux vers les sacrificateurs, comme prévu par la loi mosaïque. Cela nous montre, et c'est ce que je pense que Luc voulait nous montrer, Jésus est ancré dans la parole de Dieu, et son désir est que les 10 lépreux aussi s'y attachent. Allez vous montrer aux sacrificateurs ou aux prêtres du verset 14, signifie qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à votre situation ? Allez vous montrer aux sacrificateurs signifie aussi allez et faites ce qui est à faire, ce que la parole de Dieu dit de faire. Alors, dans les chapitres 13 et 14 du Lévitique, c'est là qu'on trouve les choses qui touchent à la situation des lépreux. Au Lévitique 14, versets 3 et 4, il est dit « Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. » Alors, tous les 10 lépreux ont obéi à cet étrange ordre de Jésus. Le sacrificateur ne pouvait que constater la maladie ou la guérison. Il ne pouvait rien faire d'autre. Mais les 10 lépreux ont demandé de l'aide à Jésus et ils ont eu la foi pour se mettre en marche, pour obéir à cette parole. Et voilà que pendant le parcours, tous les 10 sont guéris. Quelle comparaison, je me suis dit, pouvons-nous faire entre ces 10 lépreux et nous-mêmes qui sommes aujourd'hui ici? Je me suis dit que nous aussi, comme les 10, demandons souvent de l'aide à Dieu pour nos multiples problèmes, nos projets ou nos désirs, qu'il s'agisse de notre famille, de notre travail ou de notre église locale. Nous remettons nos projets entre les mains de Dieu pour qu'il nous aide à les accomplir jusqu'au bout et qu'il ouvre les bonnes portes. Jésus, aide-moi à trouver un travail, aide-moi à réussir les études, aide-nous à avoir une bonne acoustique dans la salle, aide-nous dans beaucoup de choses. Pourquoi il est parti là? C'est bête. Alors, ce que je pense, c'est que souvent, la réponse de Dieu est souvent semblable à celle que Jésus a donnée aux 10. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu dans votre situation? Va et fais ce qu'il est à faire dans la situation que tu vis. Mets-toi en marche pour montrer ta foi. Il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, nous dit Hébreux 11:1. Donc, ça signifie que se mettre en marche vient avant de voir la solution, avant de voir la réponse de Dieu. Et si nous faisons cela, voilà que Dieu pourvoit, que le projet avance, que le voyage au Tchad, que nous allons parler par la suite, est devenu une réalité après 2 ans d'attente et de prière. Merci Seigneur. Avons-nous la foi d'aller jusqu'au rivage avant que l'eau du Jourdain se sépare par la puissance de Dieu? Dieu l'avait promis aux enfants d'Israël. En effet, dans Josué 3, il est dit, avant qu'ils vont, Dieu dit, « Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront les plantes des pieds dans l'eau du Jourdain, c'est en ce moment-là que l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y avait une digue. » Donc, comme l'a dit l'épreuve, nous aussi prions pour obtenir l'aide de Dieu. Et après, avons-nous fait ce qu'il faut faire? Avons-nous avancé par la foi? Avons-nous marché jusqu'à mouiller nos pieds? Je voudrais vous raconter un témoignage encore de mon travail parmi les enfants de la rue N'Djamena. Vous savez, depuis le commencement de ce ministère, on souhaitait, on savait qu'il y avait le besoin d'avoir un terrain. Cela était en prévision de construire une maison pour accueillir les enfants qui voulaient vraiment laisser la rue. Une maison de rééducation. Les conditions d'entrée, la vie à l'intérieur du centre, les étapes de progression vers la réinsertion, sur le papier, tout était déjà établi. Mais dans la réalité, il n'y avait rien. On avait même choisi le nom, Maison de vie, Centre de rééducation à la vie sociale et familiale. Mais devant nos yeux, il n'y avait rien. Alors, plusieurs fois, j'ai partagé cela avec les responsables de la mission. Mais rien se passe dans le concret. Je m'attendais qu'il dise, voilà Raphaël, voilà, cet argent va acheter un terrain. Eh bien non, il n'y avait pas d'argent dans ma main. Mais je continuais à prier parce que j'étais convaincu qu'il fallait, que c'était aussi dans la volonté de Dieu d'avoir ce terrain. Mais finalement, Dieu m'a parlé clairement, m'a donné une pensée claire dans ma tête. Il m'a dit, arrête de me demander un terrain et fais ce qu'il faut faire pour avoir un terrain. Arrête de demander un terrain. Finalement, j'ai compris qu'est-ce que Dieu voulait dire. Si le travail nécessitait d'un terrain, il fallait que je me mette en marche et aller le chercher, même sans que la mission me donne l'argent dans la main. Cherchez et vous trouverez, nous dit le Seigneur. Alors, une dizaine de terrains ont été visités. On a recherché les propriétaires, on a pris des photos, on a discuté les prix et même la manière de comment l'acheter. Et au travers de cela, on a fait un rapport qu'on a envoyé à la mission avec le résultat de toutes nos recherches. Les responsables ont analysé le rapport et voilà qu'en ce moment-là, ils ont choisi un terrain et ils nous ont envoyé l'argent pour l'acheter. Aujourd'hui, le rêve est devenu une réalité. Et le groupe qui a voyagé avec nous au Tchad a pu visiter le terrain, a pu voir le mur qui a été construit. Donc, les enfants des rues, motivés à changer de vie, auront bientôt la possibilité d'être accueillis au centre de rééducation maison de vie. Alléluia! Mais reprenons encore notre texte de Luc pour regarder un peu mieux certains événements. Lisons les versets 15 à 19. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et rendre gloire à Dieu ?» Puis il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Donc, l'un d'eux se voyant guéri. Cet homme était sensible à l'œuvre de Dieu dans sa vie. Les autres étaient aussi guéris, mais peut-être ils étaient trop apitoyés sur eux-mêmes ou trop occupés à rechercher l'accomplissement officiel par la visite du sacrificateur. Donc ce n'était que le sacrificateur qui pouvait leur dire « Dieu a agi dans ta vie ». Eux, ils n'arrivaient pas tout seuls peut-être. Le texte ne nous éclaire pas sur ce point, mais nous avons écouté les mots un peu durs prononcés par notre Seigneur. Où sont-ils les 9 qui ont été guéris avec toi ? Ce n'est que cet étranger qui est revenu pour donner gloire à Dieu. Alors, c'est des questions que doivent nous faire réfléchir sur notre attitude vis-à-vis de l'action de Dieu dans notre vie. Avons-nous de la reconnaissance comme cet étranger ? Ou avons-nous besoin de la confirmation de notre pasteur ou de notre mari, de notre femme ? Sommes-nous des étrangers ? À côté de cette question, je voudrais vous proposer deux versets qui sont fort intéressants et qui parlent des étrangers. Le premier, c'est l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Il dit, « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Donc là, Paul nous dit, vous n'êtes plus étrangers. Le deuxième texte, nous le trouvons en hébreu, hébreu 11, là où on parle de tous les héros de la foi. Au verset 13, il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, ces héros de la foi, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alors, on pourrait croire que ces deux passages se contredisent. Mais je n'ai pas peur de me contredire en vous encourageant aujourd'hui à être des étrangers. Non pas des étrangers sans Messie ou sans droit de cité, comme nous dit Paul, mais plutôt des enfants de Dieu, et donc étrangers et voyageurs sur la terre, selon ce qui est écrit dans la lettre aux Hébreux. Des étrangers dans la bonne attitude de ce lépreux samaritain. Lui, il était un étranger qui n'avait aucun droit à Jérusalem, mais qu'il a reçu le salut. Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé, lui dit Jésus. Paul nous dit aussi dans son texte, souvenez-vous que vous n'êtes plus étranger à Dieu, à ses promesses, mais aussi que vous n'avez rien mérité, vous n'avez aucun droit, car tout est grâce, la grâce de Dieu sur notre vie. C'est un grand contraste avec notre société de droit, n'est-ce pas? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, n'avons aucun droit parce que nous vivons sous la grâce de Dieu. Et voilà que c'est seulement l'étranger, le Samaritain, qui est allé vers Jésus pour le remercier. Et il a fait bien plus que cela. Hein? Nous avons lu, se voyant guéri, il est revenu sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il est tombé sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Alors, quand nous sommes étrangers dans une ville inconnue, nous avons bien souvent le besoin que quelqu'un puisse nous donner des indications nécessaires pour arriver à destination. On peut même trouver quelqu'un qui nous accompagne jusqu'au lieu recherché. Il ne faut pas que vous pensiez que ces choses n'arrivent plus. Moi, je l'ai vécu moi-même, ça ne fait pas longtemps, à Genève. C'est pour moi une ville étrangère. Alors, je devais me rendre à l'ambassade au Tchad pour les visas. Et même avec mon Google Maps GPS, impossible de trouver le bon arrêt du bus parmi le grand nombre qui s'est présenté devant mes yeux. Et finalement, c'est quelqu'un du lieu qui a vu que j'étais perdu, qui a dit « Viens, je t'accompagne ». Il m'a accompagné jusqu'au bon arrêt et j'ai pu prendre mon bus. Voilà, en tant qu'étrangers, nous sommes facilement reconnaissants et nous montrons notre gratitude comme ce Samaritain. Est-ce que nous faisons cela aussi dans notre maison ou dans notre église? Est-ce que nous vivons cette attitude d'être étrangers et d'avoir reconnaissance de tout ce qui se passe? Sommes-nous reconnaissants de ce que fait notre femme, notre mari, nos enfants, nos parents? Sommes-nous reconnaissants pour tout ce que nos frères et sœurs font afin que notre église, l'escale, puisse fonctionner? Avons-nous l'attitude de l'étranger qui donne gloire à Dieu ou pensons-nous d'avoir des droits? J'ai le droit d'avoir ma place à l'église, de vivre un bon moment de louange, d'écouter une très bonne prédication. Chers amis, trop souvent, dans notre maison, nous pensons que tout nous est dû, que nous sommes dans le droit de trouver un repas, que les enfants nous obéissent, que nous ayons tout sans même besoin de demander. Peut-être nous faisons cela aussi à l'église, ou peut-être nous faisons cela aussi avec Dieu. On pourrait dire, mais quand même, nous sommes de la famille de Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers. Dieu nous a tout promis en Jésus-Christ. alors qu'il nous donne ce que nous demandons. Chers amis, ce n'est qu'au ciel et pour l'éternité que nous aurons tout et que nous serons comblés. Mais ici, sur terre, rappelons-nous que nous restons des étrangers et des voyageurs. Ce lépreux, étranger, samaritain, nous montre la bonne attitude à avoir. Il reconnaît qu'il n'a aucun droit, mais il a tout reçu et il montre cette gratitude. Soyons des étrangers et reconnaissons le privilège d'avoir des amis, des frères en Christ, un mari, une épouse, des enfants. Soyons reconnaissants d'avoir le souffle de vie que Dieu nous a donné. Soyons reconnaissants pour tout ce que Dieu fait pour nous et rappelons-nous que rien n'est dû, mais que tout est grâce de la part de Dieu. Je voudrais terminer en reprenant le passage en Hébreux 11, 13, où il est dit, c'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Peut-être c'est difficile à entendre ce passage, mais la vraie foi se manifeste lorsqu'on se met en chemin sans avoir aucune garantie quant à la suite. Comme les dit l'hébreux, comme les Hébreux devant la mer Rouge ou devant le Jourdain, la vraie foi se manifeste dans la vie des personnes décrites en Hébreux 11. Ces héros de la foi qui n'ont même pas reçu les biens promis, mais ils étaient reconnaissants, même seulement de les avoir vus de loin. Ils les ont salués de loin. Être reconnaissant sans avoir rien reçu. Voilà le défi que je vous lance aujourd'hui. Mais sachant que Dieu, nous avons un grand Dieu. Et Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Voilà, je vous laisse avec ce passage et je vous dis, merci de m'avoir écouté. Que Dieu nous accompagne dans ce chemin de reconnaissance. Amen.